Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait » avec Lucas à la technique. Et aujourd'hui, un invité que j'attendais au coin du bois, ben ça tombe bien, il s'appelle Pierre Dubois. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien,
merci. Très bien. Alors, je t'ai invité parce qu'on m'a dit que tu étais champion de quoi ? Du monde
de... Champion de France et d'Europe, d'Europe de carom, le billard indien.
Alors, le carom, c'est un billard indien qui se joue comment ?
Alors ça se joue assis, à deux ou à quatre joueurs, sur un plateau en bois qui fait un petit peu moins d'un mètre de côté, avec les doigts en pichenette. Ici, la queue du billard est remplacée par le doigt, et c'est un jeu qui est très similaire au billard, sauf qu'on joue avec le doigt, assis, un palet que l'on va lancer pour rentrer les pions de sa couleur dans les trous, dans les coins. C'est un jeu carré, donc on rentre les pions dans n'importe quel trou, dans l'un des quatre trous.
Bon, ça, c'est un mélange avec le billard, et aussi, moi, quand j'étais petit, on jouait à la clotte. On faisait un trou dans la terre, et puis avec les billes, on poussait
les billes, mais une règle particulière, ouais, je la connais pas celle-ci. Nous aussi, on joue aux billes. C'est vraiment un mélange entre les billes et le billard.
Voilà, mais les billes, on peut jouer comme ça.
On peut aussi jouer avec le pouce, avec les billes en avant. Ici, c'est plutôt avec l'index ou le majeur en avant, et les coups qui sont derrière notre zone de tir, on joue plutôt avec le pouce aussi en arrière.
D'accord. Et donc, de tous ces jeux, enfin, tu connais plein de jeux comme ça, tu en fais aussi des animations.
Voilà, exactement.
Un peu de partout.
Un peu de partout, dans toutes sortes de structures. École, centre de loisirs, médiathèque.
Bon, on va apprendre à te connaître. Moi, je veux tout savoir de toi. Je veux savoir d'où tu viens, quand tu es né. Moi, enfin, tu dis ce que tu veux. Et qui sont tes parents, si tu as la famille, et où tu habites et compagnie, déjà.
Alors, j'ai un petit peu plus de 30 ans, je suis né à Versailles dans les Yvelines.
C'est pas de ta faute.
Voilà, bon, dans le château s'il
vous
plaît.
Dans le château. C'est toi le roi soleil.
Voilà. j'ai grandi donc en partie du côté de mon père dans les Yvelines, dans un petit coin de campagne très chouette, là, à côté de Montfort-la-Maurie, je sais pas si vous connaissez, mais c'est
un endroit, oui.
Voilà, proche de la forêt de Rambouillet, donc un endroit très calme dans un ancien moulin, avec un endroit génial, quoi, pour grandir. C'est vrai que c'était une chance pour mon frère et moi d'avoir tout cet espace.
Frère cadet.
Un grand frère, ouais, un grand frère, 2 ans et demi de plus. Avec ma mère, ensuite, on a pas mal bourlingué, voilà, ils se sont séparés, j'étais jeune, on est parti vivre un petit peu au Brésil, puis en Guyane et aux Antilles, surtout 1 an et demi, là, quand j'étais tout jeune. De retour en France, de nouveau chez mon père dans les Yvelines, on est reparti ensuite avec ma mère et mon frère en Inde, 3 ans,
d'accord,
de mes 8 à 11 ans. Et c'est là que j'ai découvert le carom. Donc le carom, ça date maintenant de plus de 25 ans.
D'accord. Alors, si tu as voyagé, que faisaient tes parents ? Tu les as toujours, tes parents ?
Oui, bien sûr. Oui. Mon père est musicien, compositeur.
Super.
Voilà.
Pianiste,
batteur,
j'ai compris.
Puis pianiste. D'abord batteur, ensuite pianiste et compositeur ensuite.
Intermittent du spectacle aussi ?
Non. Il place des musiques à la SACEM et il donne des cours de piano à côté de ça.
Il habite toujours
dans les Yvelines, voilà, dans ce petit village. Et ma mère est institutrice, donc elle a trouvé le moyen de trouver des postes un peu partout. Et elle a vécu donc aux Antilles, en Inde longtemps, et au Maroc ensuite, 6 ans au Maroc, ouais. Et
maintenant, elle est là où je suis né, à Meknès.
Ah oui, ah ben c'est là qu'elle travaillait.
Ah ben tu vois.
Elle a passé 6 ans à Meknès. Ah, c'est vrai. Et mon frère maintenant vit à Agadir, au
d'accord,
sud du Maroc.
Ok. Et ton frère, il fait quoi alors ?
Il est ingénieur agronome.
À Grenoble.
À Grenoble.
C'est bien. Justement.
Voilà, il travaille dans des fermes de culture.
D'accord. Alors, tu as fait la maternelle ou un peu de partout alors.
Du coup, maternelle un peu de partout. Ouais, c'était essentiellement dans les Yvelines et un petit peu aux Antilles. Ensuite, primaire Yvelines jusqu'au CM1. En Inde, CM1, CM2, 6e. Et après, le reste du collège et du lycée en France et les 4 années de faculté de sciences aussi en région parisienne. Au sud de Paris, à Orsay. J'étais à la faculté d'Orsay. J'ai étudié la géologie. Voilà, les cailloux, la minéralogie.
Le musée d'Orsay.
Pas vraiment. Le musée d'Orsay, c'est en plein Paris. Ouais, oui. Ça n'a rien à voir.
Pourquoi ça s'appelle le musée d'Orsay, d'ailleurs?
Mais bonne question. C'est vrai que je me la pose aussi. Mais je ne sais pas trop à quoi correspond le musée d'Orsay. En tout cas, la faculté d'Orsay, c'est un lieu génial. D'accord. Où j'ai redécouvert le carom complètement par hasard dès le d'accord premier jour. Donc le billard indien, là, ma grande passion. Il y a une association étudiante sur place où, par chance, se trouvait beaucoup de carom. Une dizaine de jeux étaient là, disponibles à tous les d'accord étudiants. Donc, dès le premier jour, j'ai
réaccroché.
Et donc, réaccroché.
En fac, tu étais quoi?
Je faisais de la géologie.
Géologie,
voilà,
oui.
Sciences de la Terre et de l'Univers pendant 4 ans. Bien. J'ai une licence de géologie. Mais j'étais tellement passionné de ce jeu que, voilà, pendant 4 ans d'études universitaires, je jouais, j'ai calculé à peu près 35 heures par semaine de carom, en plus des études. Ça, c'est quand même un sacré rythme. Et...
Tu gagnais ta vie avec ça, non?
Non, pas vraiment. J'ai gagné tout un tas de...
On peut jouer, hein. Quand on joue au poker, on joue au tarot, on joue tout ça, on peut jouer des coups à boire, à bouffer.
Oui, bien voilà. Sûr, bah, on le faisait. Foot, à la aussi. Fac, je gagnais des semaines entières de sandwichs offerts, par exemple, par la cafétéria. Ouais, à chaque tournoi que je gagnais, c'était une semaine de sandwich, par exemple. Ou...
Alors, carom, ça s'écrit comment?
Le carom, c'est C-A-2-R-O-M.
C'est
un jeu. Alors, c'est un jeu d'origine indienne. On connaît pas l'origine exacte, mais c'est en Inde qu'il est le plus joué, le plus développé, avec plusieurs dizaines de millions de licenciés qui font des tournois chaque mois ou très régulièrement. Chaque ville en Inde a au moins un club de carom, voire plusieurs, et même dans les villages les plus reculés, j'ai pu voyager jusqu'au nord-nord de l'Inde, du côté du Ladakh ou du Cachemire. Chaque fois que j'en ai cherché, j'en ai trouvé. Il y a des joueurs partout. Après, on le considère un peu comme le billard du pauvre, entre guillemets, puisque voilà, c'est beaucoup les hommes qui y jouent, souvent dans des lieux un petit peu confinés où ils parient de l'argent, donc c'est un petit peu en cachette et voilà, il a
pas. Tu viens jouer toi en tant que joueur pour gagner des sous là-bas?
Oui, aussi, ouais, bien sûr. J'ai même été radié de certains clubs parce que j'avais battu tous les joueurs.
Tout le monde.
C'est ça, à Goa, dans un petit club à Siolim, là, un petit village.
Je veux dire, c'est bien pour s'intégrer, mais là, c'est,
ouais,
pas,
c'est ça,
l'inverse.
C'est exactement. Moi, à la fois, c'était quand même, il le prenait à la rigolade, mais c'est vrai que j'avais gagné tous les joueurs présents. Ils m'ont dit, ben maintenant, tu joues plus dans ce club-là, tu vas faire une heure de route pour aller jouer dans la capitale de Goa. Donc, c'était la petite anecdote rigolote, quoi. D'accord. Mais généralement, dans les autres clubs en Inde, ils ont un niveau quand même un peu supérieur et je trouve toujours quelqu'un finalement de meilleur que moi. Généralement, quand je gagne plusieurs fois d'affilée, ils vont chercher eux-mêmes des joueurs de plus en plus bons pour finir par me mettre une petite raclée comme il faut.
Alors tu dis que tu es champion de France et d'Europe, il y a donc des tournois de ça?
Et oui,
en Europe,
oui.
Et en France.
Alors en Europe, c'est une fois par an la Coupe d'Europe qui est tournante, c'est-à-dire que une année c'est la France, ensuite la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne maintenant, la République tchèque aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié comme pays? L'Italie. On est 7-8 pays à organiser des Coupes d'Europe chaque année.
Et fois, une
dizaine,
tu vas dans
10-12, j'y vais chaque année, ouais, bien sûr. Plus des Open pendant l'année, parfois en Pologne, en Suède, en Angleterre, enfin à droite à gauche, ils font en plus des Open ouverts à tous. Et en France, on a à peu près un tournoi par mois entre les 8 et 10 clubs qui représentent la Fédération française. Chaque club organise un tournoi dans l'année, donc ça se répartit à peu près, ça fait à peu près un tournoi par mois entre septembre, octobre et juin.
D'accord. Comment se fait-il que tu sois à Villefranche-Rouergue? Tu
n'habites pas Alors, je suis à Najac. Ouais, Najac. J'habite à Najac. D'accord. Un petit peu par hasard. C'est vrai que
Najac, il y a beaucoup de gens de tout style.
Oui, c'est vrai. Non, c'est un village très chouette. Hein. C'est une nature magnifique. Et je connais ce lieu depuis petit. Ma mère nous y emmenait avec mon frère depuis tout jeune. Elle a travaillé un petit peu à droite à gauche, à Saint-Antonin. Elle avait des amis sur place. Et elle a acheté une petite maison au cœur de Najac il y a une vingtaine d'années que j'ai investi du coup il y a 4 ans à peu près. Ouais. Il y a 4 ans. J'habitais dans le Lot auparavant. Et puis voilà, la vie m'a ramené un petit peu plus près de Najac et j'ai retapé cette maison pour qu'elle soit habitable à l'année. Ma mère habitant en ce moment à Paris, voilà, ça pose aucun problème. Elle est plutôt ravie même que la maison soit occupée, chauffée. Et
déjà,
retapée,
ça fait pas de loyer.
En plus, ouais, voilà, c'est vrai que c'est.
Tu vis de quoi alors de ça?
Ben, je vis essentiellement de mes animations. J'ai encore un petit peu d'aide à côté tant que je ne dégage pas suffisamment de revenus, mais c'est en bonne voie pour je suis en bonne voie de m'autonomiser, si on peut dire. Et après, je passe énormément de temps à m'entraîner au carom et à me déplacer pour faire des tournois. C'est vraiment passion, quoi. Ouais.
D'accord. On va faire une première respiration musicale avec des morceaux que tu as choisis. Donc le premier, c'est Sona Jobaret, Gambia.
Jobartet. Ouais. Gambia.
Alors Lucas écrit toujours comme un pied. Mais c'est pas ça grave. Sa faute, moi c'est pareil. Alors.
Et un musique
morceau
africaine.
Africain. D'accord, bien écoute. Thank you. Voilà, c'était Sona Jobarté de Gambie. T'y allais en Gambie?
Non.
T'as envie d'aller en Gambie?
T'aimes
les voyages?
Ouais, c'est un tout petit pays au milieu du Sénégal, hein, c'est ça?
Ouais.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça joue des cascasses beaucoup d'ailleurs au Sénégal, donc je pense que je trouverai de quoi m'occuper là-bas.
Moi, j'ai fait une chanson sur mon cinquième disque. C'est un gars qui envoie des galets, l'autre, il veut lui piquer, on lui dit, tu te tires ailleurs, mais c'est mes galets. Voilà, donc, ça n'a aucun rapport.
Pas mal.
Je rigole. Ça fait rire Lucas.
Après, je suis pas sûr qu'elle soit de Gambie même. Le titre de la chanson s'appelle Gambia. Alors elle, sa nationalité à vérifier, mais je suis pas certain qu'elle soit de Gambie. Quoi. C'est le titre de la chanson en tout cas.
Ok. Tu aimes toutes les musiques?
J'aime beaucoup les musiques africaines. C'est vrai qu'elles me touchent beaucoup. Musique indienne évidemment et du Brésil aussi. Ouais. La bossa nova, j'aime beaucoup et beaucoup de piano aussi, j'adore certaines musiques classiques.
Pardon, papa. Et donc, si les gens veulent te contacter déjà pour faire des animations, où est-ce qu'on peut te contacter?
Alors, via mon site internet, c'est le plus simple, pierredubois.fr.
Ouais.
Dessus, il y a mon numéro, mon mail,
et si plein on veut te voir sur YouTube,
Sur YouTube, alors il y aura quelques vidéos qui sont disponibles directement sur mon site. Sinon, j'ai une chaîne YouTube que vous trouverez en tapant Karom, C-A-2-R-O-M, donc le nom du billard indien, Karom Pierre, mon prénom. Et là, vous trouverez plus de 200 vidéos de tournois, d'exercices, de matchs, de tout un tas de vidéos que j'ai créées depuis quelques années. Là. D'ailleurs, enfin, je vous le dis comme ça, c'est la chaîne de Karom mondiale la plus visitée pour l'instant. Ça va peut-être pas le rester longtemps, mais il y a bientôt 7 millions de vues. Et c'est vrai que dans le milieu du Karom, je suis plutôt... Je suis une figure, entre guillemets, quoi. Enfin, ça me gêne un peu de dire moi-même, mais en tout cas, c'est ce que...
Alors, tu as mené là plusieurs jeux. Alors, derrière moi, il y a un Karom.
Voilà, il y a un Karom, il y a un petit Pastrap. C'est la taille moyenne du Pastrap. C'est un jeu très rigolo aussi, avec des palets en bois qu'on doit lancer à l'aide d'un élastique à travers l'encoche centrale. Là.
Ça ressemble, il y a un jeu qui est fait aussi sur Najac, il y a plein de gens qui en ont d'ailleurs. C'est le même truc que ça, mais beaucoup plus long.
Alors ça, c'est le billard hollandais.
Billard hollandais.
Voilà, on lance des palets dans des encoches, dans quatre encoches différentes,
voilà.
Sans élastique.
Des points, voilà.
Voilà.
À la main.
Ouais, je l'ai aussi celui-là en animation, il est chouette, ouais, il est sympa.
Ensuite, il y a... Là, il y a une sorte de cible.
Alors oui, ça s'appelle le croquinole et c'est le billard québécois. C'est un jeu de pichenette, un petit peu similaire au carom, sauf qu'ici le jeu est rond et on va jouer à deux ou à quatre joueurs un petit peu de la même manière en lançant des pions au plus près du centre de la cible. Vous voyez, en plein centre, il y a une encoche. Donc l'idée, c'est d'aller placer ses pions au plus près de cette encoche, voire dedans, tout en touchant à chaque fois le pion de l'adversaire. C'est pas juste un jeu de précision où on va lancer son propre pion. On doit en plus toucher le pion de l'adversaire, idéalement lui sortir à l'extérieur du jeu, tout en se plaçant au plus près du centre de la cible.
Super. Tu as ramené aussi des instruments de musique donc africains.
Voilà, les cascasses, c'est une autre de mes passions. J'ai trois grandes passions. Le carom, les cascasses et la jonglerie, bal, massue, diabolo, depuis tout jeune. Ouais.
Et tu fais ces animations... Et comment se passe une animation que fait Pierre?
Alors, je vous propose trois animations différentes, soit autour des jeux en bois, toutes sortes de jeux en bois. J'en ai un peu plus de 15 différents, des jeux d'adresse, de dextérité, de stratégie. Enfin voilà, des jeux très chouettes, toujours en bois. Donc là, je viens avec tout mon matériel. Parfois sur place, il y a des tables, mais bon, sinon je peux venir avec tout ce qu'il faut. Ça peut être une demi-journée ou une journée entière d'animation pour tout public à partir de, on va dire, 7 ans. Pour certains jeux, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de concentration et d'habileté. Mais après, ça peut aller. Enfin, c'est des jeux aussi qui conviennent très bien aux adultes, quoi. C'est vraiment des jeux intergénérationnels. On partage un moment tous ensemble et on en trouve. Enfin, il y en a pour tous les goûts, quoi. Vraiment, même si vous n'êtes pas fan du carom, qui est moi mon jeu préféré, il y en aura plein d'autres pour vous satisfaire. Donc ça, c'est pour l'animation jeu en bois. Ensuite, je propose des animations cascasse plutôt sur 2 ou 3 heures pour vous initier un petit peu.
Il faut expliquer ce que c'est cascasse.
Les cascasses, c'est un instrument.
Ce sont deux boules, un peu comme
de
des
percussions.
Oui.
Voilà.
Ce sont des fruits séchés avec des boules, des petites graines dedans.
Exactement.
Et un fil qui les relie.
Et voilà, une petite corde qui les relie. Et si vous voulez entendre un petit peu à quoi ça ressemble.
Oui, vas-y, tu peux jouer
une petite minute ou deux. Donc voilà, c'est très rythmique et c'est très intéressant pour jouer dès demain avec donc une paire dans chaque main.
Profiterai pour te filmer tout à l'heure.
Ouais. Ouais. C'est, je trouve ça génial pour la désynchronisation, la coordination, le rythme. On peut vraiment développer plein de choses.
Chanter en même temps, c'est
chanter en même temps, c'est encore mieux. Je le fais un petit peu, mais de mon côté, seul ou avec ma copine en vacances, à l'océan, quoi. Ouais, ça nous arrive et on passe des bons moments. Mais ce que j'apprends là, surtout avec les cascades, c'est
Alors tu en vends aussi, donc
j'en vends aussi,
éventuellement sur ce site.
Exactement, vous les trouverez.
Il y en
aussi,
a même à fabriquer maison, quoi.
Ouais, je commence à en fabriquer. Plastique. Alors il y en a en plastique et je suis en train d'essayer de faire des modèles aussi avec une pâte de papier mâché mélangée à de la poussière de bois et du vernis pour avoir un matériau bien dur.
Pourquoi ce que tu devrais faire en ce moment, c'est une idée, c'est en faire avec des boules de Noël.
Pourquoi pas?
Tu vois, colorer vrai. Tout ça, Noël. Ouais. Comme ça, on peut même les pendre au sapin.
Ouais, ça serait chouette. Il faut que ça soit à la fois solide, creux à l'intérieur.
Voilà. Si c'est un boule de papier mâché, c'est
possible. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est non, c'est possible. Hein. Ouais, des petites étoiles dessus.
Ouais, ouais.
Pourquoi pas?
Tu te désignes tu te fais un Père Noël, et puis.
Et hop, c'est parti. Sur
les est-ce que tu fais des animations dans les écoles?
Alors j'en ai fait un petit peu et là il faut vraiment j'aimerais développer ce côté-là. J'ai un gros travail de prospection à faire parce que ça fait quelques mois seulement que j'ai lancé mon activité avec mon statut d'auto-entrepreneur.
Donc c'est une auto-entreprise. Voilà.
C'est une auto-entreprise.
Micro-entreprise.
Ça s'appelle micro-entrepreneur mais ça correspond à l'auto-entreprise. Ouais, c'est la même chose. Et c'est mon but de développer vraiment cette activité dans les écoles, mais c'est pour l'instant j'en ai eu très peu. J'en ai fait dans des écoles en Pologne, notamment là, mois d'octobre. J'ai été invité une semaine pour entraîner des joueurs confirmés et de nombreux joueurs dans des écoles, dans 4-5 écoles différentes. Donc il y a vraiment un potentiel, certains dans les écoles, même avec des jeunes dès 7 ans, ça fonctionne déjà très bien.
Et là, quand tu fais ça, quand tu es en Pologne, tu es payé par la Pologne ou quoi ?
Oui, là c'est la Pologne qui me dédommage et qui me...
Mais comment, c'est des gens qui t'ont vu sur Internet?
Non, je les connais très bien. Ce sont des joueurs qui ont participé à différentes coupes d'Europe. Et ce sont devenus des amis. Et je suis plusieurs fois allé les entraîner en 2013, 2014 et cette année-là au mois d'octobre. Et d'ailleurs, ils ont énormément progressé suite à ces entraînements-là. Juste pour info, là, cet été à la Coupe d'Europe en Italie, j'ai perdu un match sur les 23 matchs que j'ai joué dans les 3 jours de compétition. Et c'était face à un Polonais, face à un joueur qui jusque-là était plutôt moyen. Il n'avait jamais fait d'exploit. Et là, il a battu un multiple champion d'Europe. Quoi.
Donc, c'était vraiment
la grosse perf. J'ai eu un peu les boules. En plus, c'était au 4e ou 5e match.
Et bien, tu pouvais faire des cascasses avec.
Et derrière ça, il fallait que j'ai vraiment aucun échec sur les matchs suivants pour atteindre la finale. Donc,
aïe.
Ça s'est bien passé.
Ah, mais donc t'as gagné quand même.
J'ai gagné, ouais.
T'as gagné la finale aussi.
J'ai gagné la finale cette année et en 2006 et 2007 aussi.
Alors on a la Coupe Davis et on a en même temps ça existe une sorte de Coupe Davis de... Non, pas assez de joueurs peut-être.
Pas vrai. Alors Coupe Davis, c'est pays tennis. Contre pays. Ouais, on fait un petit peu ça aussi chaque année à la Coupe d'Europe. Le premier jour, il y a à la fois la plupart des joueurs qui font un tournoi en double, 2 contre 2. Et les 4 premiers de chaque pays s'affrontent pour un tournoi en team, où là ce sont vraiment les pays qui s'affrontent les uns contre les autres, les joueurs de 1 à 4 contre tous les autres 4 premiers joueurs de chaque pays. Donc ça ressemble un petit peu peut-être à la Coupe Davis. Les 4 premiers de chaque pays s'affrontent, et c'est la Pologne qui joue contre l'Allemagne, la Suisse contre l'Italie et compagnie. Donc c'est un peu similaire sur une journée. Là.
D'accord, c'est très bien. C'est quoi les règles exactes?
Alors les règles, pour faire simple, c'est vraiment...
Parce que là, je vois, je regarde le truc, c'est un super jeu quand même.
Ouais, le jeu est magnifique.
Ça doit pas être donné, ça. Si tu veux
bah, il y a différentes qualités, mais enfin, disons que celui-ci, c'est le modèle de compétition. Il faut compter 250 € pour se faire une table.
C'est un bel objet aussi.
Ouais, c'est un jeu qu'on garde à vie. Hein. C'est vrai que c'est vraiment des jeux de qualité. Il fait pas loin de 20 kilos celui-ci. Alors ceux-là sont importés d'Inde parce qu'ils ont vraiment quand même un savoir-faire et une technique. De plus de 100 ans de fabrication de Carom. Après, les deux autres jeux que j'ai ramenés ici sont faits en France, oui, le Pastrap et le Croquinol, par Ferti du côté de Bordeaux, là, c'est un fournisseur qui est du côté de Bordeaux. Et pour revenir sur les règles du Carom, donc on joue avec 19 pions que l'on place au centre du jeu au début. On place une rosace de pions assez jolie, d'ailleurs, vous verrez sur mon site ou Vous retrouverez ça facilement. Avec 9 pions blancs.
En plein milieu, il y a une étoile.
Voilà, il y a une étoile au milieu que l'on remplit avec les pions. Donc 9 pions blancs, 9 pions noirs et un pion rouge qu'on place au centre du jeu. Le joueur qui casse, donc qui démarre au début, doit rentrer les pions blancs dans n'importe quel trou à l'aide de son palet qui ressemble un petit peu. C'est une tranche de boule de billard en fait.
De poule.
C'est vraiment similaire, sauf qu'ici on reste assis.
Le billard anglais, là.
Oui, c'est un petit peu similaire, sauf qu'ici, la grosse différence, déjà, on ne joue pas avec une queue, mais avec le doigt, en pichenette. Et son palet, on va le placer où on veut, sur la zone qui nous appartient, qui est face à nous. Vous voyez, entre les deux ronds rouges, il y a deux traits noirs qui déterminent notre zone de tir. Et chaque joueur a sa zone de tir qui lui appartient, qui est face à lui. Donc, on reste assis, face au jeu. Et on place son palet comme on le souhaite sur cette zone de tir, pour rentrer les pions de notre couleur. Sachant qu'ici, on a en plus le droit de s'appuyer sur les pions de l'adversaire. Au pool, généralement, on doit jouer seulement sa couleur de bille. Ici, on peut s'appuyer sur un noir pour mettre un blanc, ou simplement défendre un pion de l'adversaire pour le rendre difficile et gagner un temps. Donc il y a beaucoup de liberté et beaucoup de possibilités.
Et celui qui gagne, c'est celui qui a mis le plus de points.
Voilà, c'est celui qui a mis tous les pions de sa couleur le premier, et ou pas forcément le rouge qui est au centre au début. Le rouge, c'est un pion bonus qu'on doit rentrer pendant la partie et valider juste après.
C'est exactement comme le...
C'est similaire, sauf que le rouge n'est pas apparenté à la bille noire au billard.
D'accord.
Le rouge, il faut le rentrer pendant la partie, n'importe quand, sauf en premier et en dernier. Et une fois rentré, il faut le valider par un pion de sa couleur, le coup suivant ou dans le même coup. Si on ne le valide pas, il revient au centre. Il faut le jouer à nouveau. C'est un pion bonus qui vaut 3 points, alors que les autres pions valent 1 point. D'accord. Et à la fin de chaque partie, on compte le nombre de pions restants au perdant sur le jeu. Imaginons qu'il vous reste 4 pions et que j'ai mis la reine, ça me fait 4 points puisqu'il vous reste 4 pions, un pion égale un point, plus 3 de la reine que j'ai confirmé, ça me fait 7 à cette partie. C'est moi qui avais cassé, ensuite ça sera à votre tour de commencer, de jouer avec les blancs d'abord, et on fait 8 parties maximum comme ça jusqu'à atteindre 25 points. Une fois qu'on a atteint 25 points, on a fini le match en finale de Coupe d'Europe ou dans les tournois internationaux, là c'est en 2-7 gagnants. Il y a des arbitres en finale en France, dans les tournois en finale en France et en Coupe d'Europe, dans les tournois internationaux, donc championnat du monde, Coupe du monde, Coupe de la Fédération internationale et compagnie. Là, il y a un arbitre portable. Ouais, c'est beaucoup plus.
Il faut passer pour être arbitre. Il faut quoi? Il faut passer le diplôme.
Il faut passer un test. D'ailleurs, en Italie. Non, cette année, ça sera en France. Là, l'année en juin 2018, la prochaine Coupe d'Europe sera à côté de Nice, à Saint-Paul-de-Vence, à Bellambra, là, dans un village, un petit village vacances sympa avec piscine, toute commodité. Ça va être un bon cadre. Et il y aura aussi une session d'apprentissage pour devenir arbitre officiel.
En France, donc, tu m'as dit qu'il y avait 10 clubs. C'est quoi?
Il y a une dizaine de clubs. Alors, c'est quoi?
Il va y avoir Paris,
alors,
Toulouse.
À Paris, il y en a un dans Paris, un au Mets-sur-Seine, un petit peu plus au sud en Essonne. Un à Nancy, côté nord, parce qu'on a en gros un pôle nord et un pôle sud en France. D'accord. Donc il y a à peu près 3 clubs dans le nord de la France, et dans le sud, il y en a beaucoup plus. Il y a Millau, Toulouse, Montpellier, Saint-Pons-de-Mauchien, un petit club à côté de Montpellier, Saint-Geniès-de-Fontaudier à côté de Béziers, Perpignan, bon, alors ils sont un coup très actifs, un coup un petit peu moins, mais c'est un des plus vieux clubs de France. Il y a un nouveau club maintenant à Limoges, donc ouais, c'est ça, ça fait pas loin d'une dizaine de clubs.
Mais là, il faut avoir une licence.
Oui, on adhère à son club le plus proche de notre lieu de logement généralement, et on prend une licence auprès de la Fédération française.
Toi, le plus proche, c'est quoi? C'est tout.
Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que donc j'habite dans l'Aveyron, il y a un club à Millau qui est dans mon département, sauf que il est à 124 km à vol d'oiseau depuis Najac, alors que Toulouse, qui est deux départements plus loin, se retrouve à 107 km à vol d'oiseau. Donc je suis rattaché au club de Toulouse, mais ça me va aussi. Il y a des joueurs de haut niveau à Toulouse, j'y vais régulièrement, et c'est bien comme ça. C'est plus simple d'y aller. Pour moi, il y a le train directement de Najac à Toulouse que d'aller à Millau, c'est forcément en voiture.
Ta copine joue à ça?
Un petit peu, très peu, mais...
Elle te gagne? Non.
Pas encore.
C'est très difficile. Bon allez, on va écouter un deuxième morceau. Donc tu vas l'annoncer toi-même, parce que c'est de l'hindou ou de l'hindi.
Alors elle est tamoule d'origine, tamoule. Me semble-t-il. Ouais, Sushila Raman.
J'adore les moules, ça tombe bien.
Alors Sushila Raman avec Mama Vatu.
Et puis on écoute là-bas.
Mama va tu si sara swati
Garder un fond pour pouvoir écouter. Donc tu aimes bien les musiques hindoues quand même.
Oui, beaucoup.
Enfin, la tamoule.
Oui, mais ça reste de la musique indienne. Alors là, c'est une femme qui a habité aussi en Angleterre longtemps, et il y a un petit peu d'influence aussi occidentale. Donc c'est pas pure traditionnelle indienne comme musique.
D'accord. Alors tu as aussi comme passion la jonglerie.
Et oui. J'ai commencé très jeune, vers 9-10 ans, avec des balles et des massues. Et je me suis jamais vraiment arrêté de jongler. C'est vrai que je me suis vraiment pris de passion pour ça. Je suis quelqu'un de passionné de base, donc quand il y a quelque chose qui me plaît, je peux y passer des heures
c'est
et des heures.
Signe,
sans me.
Je
suis bélier.
Bélier, ah ouais. Ouais. Mois d'avril.
Voilà, c'est ça.
Mon fils est du 16 avril.
Ok. Et le jonglage, toutes ces années collège, lycée, fac, je jonglais pareil, au moins une heure, deux heures
donc
tous les jours.
Tu foutais rien alors en fait.
Mais je faisais beaucoup de carom et de jonglage, c'est pas faux, mais j'ai quand même eu ma licence de géologie.
Bon,
j'en ai rien fait, mais je m'étais dit si j'ai ma licence, je pars 6 mois en Inde faire du carom à fond, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en participant à la première Coupe du Monde. Pour moi, hein, c'était la deuxième en réalité, mais ma première participation à une Coupe du Monde en 2006, où j'ai été par la suite sélectionné sur un tournoi télévisé sur ESPN, où j'ai gagné 1 500 $ à l'époque et tout, ce qui était pas mal, quoi. Dans 5-6 mois de voyage en Asie, j'ai pu partir aux Maldives avec mon super ami chasseur de papillons, là, Steve Collard, qui vit au Laos. Là, c'est un super ami à moi, qui est très proche. On a été d'ailleurs en 2006, cette même année, là, moi-même champion d'Europe et lui vice-champion d'Europe. On s'est retrouvés à 2 Français en finale de Coupe d'Europe. Je repasse du jonglage au carom très vite,
bien,
excusez-moi.
Bien,
juste pour vous raconter un peu cette anecdote, voilà, un voyage magnifique où on a parcouru X clubs en Inde, très bien mangé, passé beaucoup de temps aussi à Goa, à louer une maison, faire de la moto, jouer partout et chasser des papillons aussi par lui, son activité qui est spécialiste des papillons d'Asie. On a passé pas mal de temps à répertorier tout un tas de papillons dans des parcs nationaux du sud de l'Inde. Super chouette, ouais, voilà. Mais pour revenir sur le jonglage, c'est quelque chose qui m'a toujours plus, c'est vrai, d'envoyer des objets en l'air. Alors je peux pas trop expliquer pourquoi, mais j'aime cette sensation de lucidité dans le moment présent et de concentration, d'application. J'aime un petit peu tout ce qui est je sais pas, c'est un côté artistique, quoi, sûrement, qui ressort en moi. Et à 13-14 ans, je jonglais à 5 balles déjà. Enfin, c'est vrai que j'étais parti pour faire du cirque en fait.
Et oui, c'est ce que j'allais dire.
J'aurais vraiment pu me lancer dans une école de cirque et finalement, j'ai fait le choix de rester dans l'étude des cailloux, peut-être lié à mon nom. Je savais pas trop quoi faire après le bac. D'ailleurs, j'ai redoublé ma terminale tellement je savais pas quoi faire après.
Ah ben, c'est le cas de beaucoup de jeunes.
Et je me rappelais que j'étais tellement fou de cailloux, je collectionnais les pierres quand j'étais jeune. Donc je suis parti là-dedans, la géologie, pourquoi pas. Le campus d'Orsay a l'air très chouette, j'avais un ami qui y était déjà. Et là j'ai redécouvert le carom, donc j'ai pas du tout regretté.
Tu aimes les pierres, hein. J'ai reçu une dame qui guérit par les pierres.
La lithothérapie.
C'est extraordinaire.
Ouais, c'est intéressant.
Ah ouais,
très intéressant.
Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on va voir un peu tes goûts, pour voir.
Ouais, allons-y. Ouais.
T'aimes manger, toi?
Bien sûr. Bon, c'est alors, quoi, je suis végétarien depuis une dizaine d'années.
Ah, végétarien, ouais, d'accord. Ouais.
Mais je me régale tout autant. Voilà, donc moi j'adore, ça va paraître tout simple, mais la salade verte avec une très bonne sauce et plein de choses dans la salade, des graines, de la levure, ça me rend heureux. J'ai pas besoin de plus pour me faire un bon repas, c'est une bonne salade complète, ça me va très bien avec un peu de tofu.
T'es végétarien parce qu'il faut pas tuer les animaux, c'est pour ça?
Bon, pour toutes les raisons en fait.
Parce que ouais. Les plantes, ça vit aussi, hein.
Ça vit aussi, mais on peut en prélever qu'une partie. La plante continue à vivre. Un animal sera difficile d'en prendre juste une jambe.
Tu peux préserver qu'une jambe.
Non, mais pour toutes les raisons que vous connaissez déjà sûrement, pour l'environnement, pour la cause animale, pour même le goût. J'ai jamais été fou de viande, donc c'est pas une frustration pour moi d'avoir arrêté la viande du tout.
T'accompagnes aussi?
Non. Ah. Alors avec moi, elle en mange pas du tout quand on est ensemble, mais voilà, en famille ou à l'extérieur, ça lui arrive d'en manger, il y a aucun souci.
Il y a pas quelques conflits des fois,
non? Du tout. Non, je respecte totalement et elle respecte aussi, donc tout va bien.
C'est la santé par les plantes, c'est-à-dire le houblon, la vigne et le chanvre, hein, c'est ça. C'est la santé par les plantes. Hein,
ah bah de toute façon, ouais, bien sûr, hein, même tous les médicaments, ce sont des extraits à la base de principes actifs de plantes. Enfin.
Donc ton plat préféré, c'est la salade.
Ça, c'est mais vrai. J'adore ça, ouais, des salades composées, c'est vrai que j'adore ça. Ouais.
Avec du vin ou pas de vin?
De temps en temps, mais pas du tout à chaque repas, c'est plutôt occasionnel. Ouais. Je bois assez peu d'alcool.
Alors est-ce que ton père, pianiste, t'a influencé musicalement?
Alors oui, un petit peu, donc je joue un petit peu de piano moi aussi, notamment quelques morceaux que j'ai pu... écoutez dans ma jeunesse, peut-être le dernier vous l'entendrez.
Oui, tout à l'heure.
Voilà, j'adore Bach notamment. Il y en a quelques-uns que je trouve vraiment sublimes, qui touchent profondément. Et donc, ce qui m'a influencé, alors oui, il m'a donné le goût de la musique. J'ai une bonne oreille, ça c'est sûr que ce que j'entends, je peux le rechanter, le rejouer directement. L'air du moins, pas forcément la grille d'accords comme il fait lui. Lui, il a tout de suite les harmonies, il déchiffre instantanément. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Je joue très peu de piano, mais quelques morceaux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, en général.
Est-ce que tu veux... Mais j'ai envie, moi, de te filmer. Que tu nous rejoues un bout avec l'instrument, mais en fredonnant, en plus.
Ah oui.
Un peu de musique. J'y suis, là.
En fredonnant.
Oui, alors, oui, mais vas-y.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir fredonner?
Vas-y.
Quelque chose d'abstrait. Hein.
Oui, oui, vas-y.
Allez, on fait un essai. C'est de l'impro, je sais pas à quoi
c'est
faire
super, non, mais c'est super parce que c'est pas évident, très difficile tu pourrais faire batteur à la limite parce que c'est de donc c'est ton papa qui était batteur.
Il était batteur, ouais.
De tout décomposer et chanter en même temps, c'est vraiment pas évident. Tu aurais pu être musicien.
Oui, bah je suis un petit peu, j'ai joué un petit
peu. Je
vois
que tu as le sens du rythme tout.
Ouais,
à fait.
Bien sûr, mais je compte aussi proposer à des écoles
pour
de musique
animations.
Bien sûr, ouais. Bah j'ai ce volet là, c'est plus rythmique, mais j'ai vraiment envie de faire connaître ce petit instrument qui est très très intéressant. Et
en fait, c'est quoi? C'est une sorte de petite calabasse, hein.
Alors, ce sont des fruits qui poussent sur un arbre qui s'appelle Onkoba spinoza et qui pousse dans toutes les savanes centrafricaines, enfin Afrique de l'Ouest, de l'Est.
En Afrique de l'Ouest, à
voilà.
Lomé,
surtout
j'étais,
en Afrique de l'Ouest, ouais. Essentiellement, voilà. Ouais. Sénégal, Burkina, Mali, Togo, Bénin, ils en jouent beaucoup, mais aussi un petit peu en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Sud. Enfin, on le retrouve un petit peu partout. Et c'est un instrument qui a été notamment aussi découvert par les Japonais, qui ont développé l'activité, mais à un point hallucinant. Ils ont une dextérité, ils ont créé énormément de rythmes, de roulements, de lancers. Enfin, ils ont vraiment travaillé la chose, et vous pouvez le retrouver sous le nom de Asalato, A-S-A-L-A-T-O. Via les Japonais sur Internet, vous trouverez des vidéos juste magnifiques, hallucinantes.
D'accord. Moi, celle que j'ai, la ficelle, en fait, c'est une sorte
comme
de...
Comme du raffia.
Raffia, ouais, tout à fait. Ouais.
Ouais, j'en ai une paire comme ça du Cameroun, aussi.
Allez, on va écouter un troisième morceau. On n'écoute pas tout en entier parce que sinon on ne pourra pas. Alors c'est Vanessa, non.
C'est ça.
Vanessa D'Amata.
Et Ben Harper.
Ben Harper, ouais, j'adore Ben Harper.
Donc
le
là,
morceau,
c'est
Bao Sorte.
C'est.
Enfin, je sais pas, moi, c'est.
Boa Sorte.
Oui. Sacré Lucas, on écoute.
São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
That's it, there's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want to give me. It's too much. It's heavy. There's no peace. All you want from me is real expectations.
On écoute donc Boa.
Boa sorte ou good luck.
Ça veut dire bonne chance.
Oui, ça devait être ça en brésilien.
Ouais, buena sorte en espagnol. Ouais, mm. Pareil. Alors, tes prochaines prestations, c'est où?
Et bonne question. Là, je m'en vais à Nancy ce week-end pour un tournoi et entraîner.
Là, c'est Stanislas.
Stanislas?
Ah oui, je connais bien, parce que j'ai mon copain Charles-Élie Couture qui faisait une première partie à l'époque, et Tom Novembre, son frère, ils sont de là-bas.
D'accord.
Ouais. Je connais bien. C'est okay. La plus grande place de Nancy.
Ok, ouais. Je connais
tu
pas
vas
bien,
jouer non, sur la...
Alors, je sais pas
tu
le,
vas faire
le lieu exact.
Sur la, la place
non, non, là, je vais entraîner vraiment des joueurs confirmés de Carom, par le club de Nancy, en fait, la veille du tournoi, on va avoir une session d'une journée où je vais leur transmettre tout un tas de techniques, de conseils et de, voilà, l'état d'esprit dans lequel.
En fond, on est en train d'écouter Maddie Sindel.
Maddie Sindel.
Sindel.
De Camille Saglio.
Camille Saglio.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, un tournoi de carom qui suit donc le 3 décembre, le dimanche. La semaine d'après, a priori, je serai avec le club de Béziers pour entraîner là le club de Saint-Géniès-de-Fontaudier à côté de Béziers sur un week-end entier. Après, j'ai des animations qui vont recommencer tranquillement en janvier, probablement du côté de Caussade. J'aurai sûrement un club aussi à entraîner à Limoges et ensuite dans le Tarn-et-Garonne. Il y a une médiathèque là qui m'a déjà pris plusieurs fois pour faire des animations et on repart pour une autre aventure en début d'année.
Sur Najac, tu fais rien des fois.
Alors à Najac, j'ai proposé.
Nul n'est prophète en son pays. Tu connais ça.
Non, j'ai fait les marchés d'été du mercredi soir là, juillet et août. Vous auriez pu me voir tous les mercredis soirs de cet été. Et au niveau animation, apparemment il y a pas trop de sous. Ils sont pas intéressés pour le moment. Ils ont pas les moyens en tout cas de.
Oui, c'est ça.
de m'employer. J'ai fait une belle animation toute une journée à Villefranche-de-Rouergue fin mai, là. C'était très chouette, super. Avec les ateliers de La Fontaine.
Voilà, ben oui, pour voilà. Jouer, bien ouais, sûr, ouais. Mais j'en fais partie aussi.
Ok, ouais. À Saint-Antonin aussi, j'en ai fait plusieurs qui sont très bien
alors,
déroulés.
Est-ce que ça se dit un prix ou pas?
Oui, ça peut se dire. Ouais, bien sûr. Bon, faut compter entre 220 € la demi-journée et 350 € la journée entière.
La journée entière, ouais.
Voilà. Sachant que je compte aussi proposer au sein de comités d'entreprise. Voilà, tout le monde n'a pas le même budget, donc je vais peut-être à terme cacher un petit peu ces prix-là.
Les prix, pour, oui, bien
aussi
sûr.
Pouvoir, ben oui, pour pouvoir créer une ouverture différente suivant
c'est normal.
Les budgets possibles, quoi, bien sûr.
C'est tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à Noël? Tu es en famille ou tu fais des...
Oui, je vais remonter en région parisienne. J'aurais aimé faire des marchés de Noël, mais je m'y suis pris un peu tard. Il est encore temps, hein, mais j'ai déjà deux week-ends de prix avec ces entraînements dans des clubs, là, début décembre et mi-décembre. Donc ça laisse pas beaucoup de temps et j'ai contacté Albi, Cordes, Saint-Antonin, différents lieux. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de réponse. Donc on va faire avec. Hein. Après, c'est au bouche à oreille, toutes les cartes de visite que j'ai pu donner dans les marchés. Donc j'ai des cartes aussi laisser et via mon site internet pierredubois.fr vous pourrez trouver tout un tas de jeux vraiment chouettes pour Noël pour faire des cadeaux.
Voilà, ça c'est très intéressant.
C'est l'idée, ouais. Voilà l'idée là vous allez
par exemple
vous avez encore le temps
les casse-casses.
Les casse-casses, ouais,
18 € la paire.
18 € les deux casse-casses et c'est vraiment un petit instrument génial.
Les deux.
Oui, les deux, ouais.
Ah, d'accord.
Une paire 9 ou 10 € et les deux
d'accord.
À 18.
18 €, c'est super. Ouais.
Ouais.
C'est super ça.
Et je peux envoyer aussi les jeux évidemment. Alors sur mon site, il n'y a pas de panier interactif où vous mettez vous-même le jeu dans le panier, commandez, c'est réglé.
Ah oui,
juste vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ensuite je me renseigne sur les frais de port et voilà, je fais toujours un geste par rapport au prix qui est indiqué, je fais tout ce que je peux pour voilà, offrir quelque chose en plus ou réduire les frais de port ou voilà, je fais vraiment des gestes commerciaux.
Très bien,
donc
super,
y a aucun souci, vous pouvez vraiment commander
Tu n'arnaques pas les gens.
Non, du tout. Je préfère me griller un petit peu moi ma marge et que tout le monde soit content.
Très bien. Est-ce que tu fais du sport toi, un peu?
Oui, je fais de l'escalade.
Voilà,
je préfère en faire à l'extérieur. En ce moment, il fait un peu frisquet, mais donc j'en fais un petit peu à la salle à la Fouillade.
Ah oui, bien sûr. Là où je joue au tennis, c'est très difficile de jouer. C'est dans le grand hall où il y a le truc de bouquins aussi, les expos de bouquins, tout ça. Très souvent.
À la
il y a un mur d'escalade.
Oui, bien. C'est là que je suis dans le gymnase, à la Fouillade. Ouais. Après, j'ai fait énormément de sport plus jeune. Beaucoup de bodyboard et de surf quand j'habitais en Inde. On était tout le temps, tous les jours dans l'eau, quoi, à attendre les vagues. Donc, beaucoup de bodyboard de surf, de VTT, de snowboard, de... qu'est-ce que j'ai pu faire comme sport? Enfin, j'ai fait tous les sports en club que possible quasiment. Enfin, du volleyball, du badminton, du foot,
sauf
du tennis.
Du tennis.
Si, j'ai fait des années de tennis.
Ah, ben voilà.
J'ai gagné mon poids juste avant de partir habiter en Inde à l'âge de 8 ans. J'avais gagné un tournoi, voilà, jeune. Hein. Et j'avais gagné mon poids en Coca-Cola. 6 kilos je faisais à l'époque. Et je les ai laissés, je l'ai pas pris. Je suis pas fou de Coca, donc.
Si vous avez trouvé
autre chose. C'était rigolo.
Ton pot en salade, mais là, il aurait fallu beaucoup.
Voilà, une palette.
Bon, alors, on va écouter 2 minutes de Vicky Lovi, en fond. Et tu vas me dire, quel est ton chanteur préféré, toi? S'il y en a un.
Voilà, c'est une question un peu piège. C'est vrai que j'ai pas spécialement un chanteur préféré. J'écoute pas mal de musiques différentes, mais je suis pas fou spécialement d'un chanteur, donc... Non, je vais pas pouvoir.
Mauvaise pioche.
Mais en tout cas, si vous avez le temps d'entendre les 7 musiques que je viens de ramener là, c'est vraiment, ça fait partie de mes best, de mes préférés, quoi.
Voilà. Alors, on va écouter très peu de Vicky Lovi parce qu'il reste 2 minutes. Il me dit, moi, j'aurais bien aimé écouter en fond Jean-Sébastien Bach. Parce qu'on en a parlé, c'est ton papa qui t'a fait aimer ça.
Ça, je l'ai écouté toute mon enfance. Voilà, je m'endormais avec et c'est vrai que c'est sublime.
Donc on va le mettre en fond et on va parler encore 2 minutes. C'est vite passé, 52 minutes.
Ouais, étonnant, ouais. Je suis un peu trop bavard, peut-être.
Non, au contraire, c'est ça qui est super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Eh ben, bonne chance et plein de réussite pour mon activité et mes prochains tournois, notamment internationaux. Maintenant, en France, en Europe, j'ai à peu près réussi tout ce que je pouvais. C'est dans le monde maintenant que j'aimerais faire mieux encore que cinquième au dernier championnat du monde.
Là, on est en train d'écouter Jean-Sébastien Bach. C'est quoi le titre?
Aria, ou Air on the G-String.
Super joli. Tu sais le jouer, ce piano?
Alors, pas parfaitement entièrement, mais je l'ai pas mal travaillé et c'est un de mes projets futurs proches. Le prélude, je joue le prélude de Bach depuis tout petit, ouais. Et celui-ci, j'aimerais le jouer vraiment. Je le trouve magnifique, ouais.
Tu le joueras. Des idées de prolonger en ayant des enfants ou pas un jour?
Oui, bien sûr. Ah oui, oui.
Pour pouvoir transmettre tes...
Ah bah ça, j'aurais X choses à transmettre, ouais, bien sûr.
Est-ce que c'est la vie, c'est ça, c'est la transmission?
Pas oui, de maladie, fait partie, bien sûr.
Bien de préférence.
La vie, oui, c'est le partage, c'est transmettre, c'est rayonner, c'est voilà, partager le bonheur ensemble, entre amis, en famille, avec sa chérie.
Un petit message à ta chérie.
Eh ben,
qui s'appelle comment?
Charlotte. Elle s'appelle Charlotte et oui, un petit message que
Charlotte, pour te dire c'est que, comme que... la directrice des ateliers de La Fontaine.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, Charlotte que j'aime très fort, voilà. Un petit coucou en passant et à très vite.
Et ben voilà, on va se quitter. Je te remercie vraiment d'être venu, mais tu reviendras parce que tu fais partie des gens très intéressants.
C'était donc
Pierre Dubois. On va se quitter avec le dernier morceau qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Jai Radha Madhav, enfin avec l'accent indien, c'est plutôt Jai Radha Madhav.
Ouais, ouais, moi je parle pas beaucoup.
Par Jagjit Singh. Jagjit Singh, pardon.
Je connais Ravi Shankar, forcément.
Ouais, ouais, voilà. J'aime beaucoup aussi. Je l'ai pas placé celui-ci.
Donc, on se quitte là. Merci à Lucas pour la technique.
Merci
et moi,
à vous.
Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Et donc, au revoir Pierre.
Au revoir, merci de m'avoir
accueilli. Bonne semaine.
Merci.
Allez, ciao.
Et bonne fête.
Merci, pareil.
Merci.
Yashodanandan Braj Jan Rangan
Yashodanandan
Krishna, 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 Krishna.